alors quelle magnifique musique folklorique. Alors on va vous donner tout de suite musique Los Folcloristas, La Malaguena, pour nous amener à commenter un film qui est à l'affiche depuis dimanche passé, hein. C'est un nouveau film, et oui, un autre sur Frida Kahlo, Viva la Vida, du cinéaste Giovanni Toilé, hein, qui présente des étapes importantes de la vie de Frida Kahlo avec des entrevues de spécialistes et des extraits de lettres, journaux, des confessions, des commentaires sur des œuvres phares. Il y a la participation de deux jeunes femmes représentatives de la dualité de Frida et de la vedette italienne Asia Argentino, hein, qui est danseuse, actrice, réalisatrice, scénariste, mannequin, enfin DJ, bon, etc. La dualité de Frida, donc la révolutionnaire, l'artiste pionnière, la féministe et bien sûr la victime aux prises avec une souffrance physique. Bien sûr, elle a subi un grave accident à 18 ans et elle commencera alors à peindre durant sa longue convalescence. Alors, rappelons que Frida Kahlo est reconnue pour son style naïf s'inspirant de la peinture des ex-voto, une peintre qui a réalisé 150 toiles qui intègrent un éventail de symboles visuels qu'elle dessine à la manière des peintres naïfs populaires mexicains. On y reconnaît plusieurs influences, que ce soit de la tradition artistique européenne, le folklore mexicain, que ce soit de différentes cultures, le catholicisme, évidemment l'aztèque, la culture aztèque. Et elle couvre aussi... elle a été reconnue, hein, par admirer des surréalistes. Et enfin, elle continue d'influencer encore nombre de d'artistes maintenant, que ce soit Madonna et bien d'autres artistes visuels. Voilà mon petit compte rendu. Je suis accompagnée en studio, je suis agréablement accompagnée en studio de deux chroniqueurs qui ont vu, et moi-même, nous avons vu le film qui a pris récemment l'affiche. Alors, il s'agit de Robert Loca qui a vu le film. Bonjour Robert, mais qui est actuellement en train de placer le micro pour pouvoir nous adresser la parole. Et Pierre Archambault qui est en studio.
Oui, bienvenue, bonjour Pierre. Chantal.
Alors que vous avez vu le film, je pense que une appréciation de ta part, Pierre? Oui?
Bon, j'aimerais un peu donner le parcours du film.
Oui.
D'abord, c'est Frida Viva la Vida, qui est un titre qu'elle a donné à son dernier tableau.
Absolument, oui. Ouais.
Donc, on apprend qu'elle est née en... c'est-à-dire qu'elle va à Mexico en 1953 c'est la directrice du musée Frida Kahlo qui, en 1953, découvre une valise qui n'avait pas été ouverte depuis 50 ans.
Quel événement!
Et là, ça a été une découverte de toutes sortes de détails de la vie qu'on ne connaissait pas. Donc, Frida, elle est née en 1910. Elle a eu trois sœurs. Son père était d'une santé précaire. Et, jeune adolescente, elle subit un accident de tramway avec perforation du pelvis et déviation de la colonne vertébrale.
C'est arrivé à 18 ans, hein?
Oui, à la fin de son adolescence.
Oui.
Donc, en convalescence, c'est là qu'elle décide de peindre son accident. Et son père va lui fabriquer un lit avec miroir pour qu'elle puisse peindre couchée. Et elle va plus tard se marier en 1929 avec Diego Rivera. Et ils vont déménager aux États-Unis parce que Diego avait des contrats de muraliste. Donc, il va faire des murales à Détroit, en Californie et à New York. Et Frida va l'aider à peindre ses très grandes murales.
C'était le peintre mexicain à l'époque, hein? Diego, oui. Rivera.
Donc, oui. Elle trouve les Américains ennuyeux et sans, oui, personnalité, évidemment, puisqu'elle était plutôt une bombe de vivacité. Elle va peindre une série d'autoportraits avec comme fond de décor les villes, mm-hmm, les villes américaines ou les pyramides aztèques. Et On explique aussi que le soleil qui revient très, très souvent dans ses tableaux représente le jour, la luminosité, la joie, alors que la lune représente la nuit, le mystère et la mort. Donc, deux symboles importants dans son œuvre. Et il y a toute une collection d'artefacts précolombiens aussi dans le musée de Frida Kahlo et Diego Rivera. Et il y a un peintre qui explique que Frida s'est inspirée, comme tu mentionnais tantôt, d'ex-voto religieux. Mm-hmm. Alors, il y a toujours cette facture-là dans les tableaux de Frida. Ils vont retourner au Mexique plus tard, et là, Diego va faire construire deux maisons adjacentes qui communiquent par une passerelle. Donc, ils pourront avoir chacun leur atelier. Et là commence une série de scènes tragiques qu'elle va peindre, entre autres un assassinat d'elle-même avec un couteau, avec plusieurs plaies sur le corps. C'est assez dramatique.
Et bien sûr, la perte de ses bébés, hein? Ça, c'est quelque chose.
Elle est fascinée aussi par les traditions féminines d'Oaxaca.
Oh,
et c'est là qu'elle va...
film intéressant.
Elle va prendre les costumes de ces dames-là, costumes très élaborés.
Société, semble-t-il, une partie du Mexique matriarcale. Hein?
Oui, tout à fait. Ouais. Donc... il y a une spécialiste qui dit que on considère Frida comme une sainte, qu'elle n'était pas du tout. Et comme féministe aussi, évidemment, les mouvements féministes se sont emparés de cette icône.
Oui.
Mais elle dit
qu'elle est plutôt devenue icône plutôt que sainte.
Elle n'était pas féministe non plus parce qu'elle était soumise à Diego.
Et on en parle dans le film. On dit qu'elle était non pas féministe, mais femme libérée.
Oui, c'est ça.
Quelle est la nuance?
Et qu'elle était plutôt libre.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et il y a l'arrivée de Trotsky aussi au Mexique, où ils tombent amoureux l'un de l'autre, Frida et Trotsky.
Mais ce ne fut qu'une brève relation, hein?
Et elle disait aussi qu'elle n'a jamais peint ses rêves, mais elle peignait sa réalité. Et
avec beaucoup de symbolique.
En novembre 1936, c'est la séparation du couple.
Oui.
Et là, elle va peindre un tableau qui est devenu célèbre, les deux Frida, celle des origines indigènes et l'autre plus contemporaine et blessée. Et à la mort de Trotsky, Frida est interrogée par les policiers. Et Diego, lui, a fui aux États-Unis et demande à Frida d'aller le rejoindre pour lui éviter des embêtements avec la police. Et là, bon, c'est les douleurs de l'accident qui reprennent en plus grande force. Et on va lui fabriquer un attelage pour soutenir sa colonne vertébrale. Et là, il va peindre beaucoup des corps, entre autres un corps où elle est comme emprisonnée dans un cerf qui est transpercé de flèches, un peu comme l'image de Saint-Sébastien. Et elle va mourir en 1954. Et la dernière partie, on voit des danses chamaniques. On voit aussi, en 53, elle se fait amputer une jambe. Et elle meurt finalement d'une embolie pulmonaire. On voit ses funérailles en dernière partie.
Funérailles nationales.
Oui, tout à fait. Et c'est ça, elle va peindre une nature morte au melon d'eau, où il y a l'inscription « Vive la vida, vive la vie ». Alors, il y a aussi, je vais souligner dans le film, des scènes des films d'animation, des films d'archives et aussi des bandes dessinées, ce qui allège un peu tout le contexte de la vie de Frida
Kahlo. On fait beaucoup de liens dans ce film avec la situation mexicaine de maintenant, ce qui est intéressant, ça renouvelle un peu le genre de film.
Oui, un peu, oui. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est très foisonnant. Je le reverrai une deuxième fois.
Oui, hein?
Oui.
Oui. Alors, parce qu'il y a beaucoup de sous-titres, il faut prendre le temps. Oui, on parle à un rythme très accéléré et il faut lire attentivement. Alors,
Mais les sous-titres sont lisibles.
Oui, voilà. Alors... idéalement, nous l'avons vu sur un lien. Idéalement, il faudrait le voir au grand écran. Oui, c'est l'idéal. Merci. Alors, Robert Loca, donc, qui a vu le film...
aussi.
Oui. Mm. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce film-là, c'est l'importance peut-être du facteur douleur dans sa vie.
Oui.
Parce que de toute façon, on dit qu'elle ne se destinait pas comme telle à la peinture, même si son père était photographe et peintre d'aquarelle. Elle était sensible aux beaux-arts, mais se destinait à la médecine, des choses comme ça. Et c'est... Bon, premièrement, elle est née avec un problème qui était que... Elle boitait. Et là, il y a eu cet accident d'autobus horrible quand elle avait 18 ans, je pense, qu'elle a eu l'abdomen défoncé, etc. C'est ce qui va faire que plus tard, c'est toutes les tentatives d'avoir des enfants, trois, vont avorter, c'est le cas de le dire. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup affecté son état d'esprit, le fait de cette impossibilité d'avoir des enfants. Il y a d'ailleurs une peinture qu'elle a faite qui est assez spectaculaire.
Ça fait un choc de voir cette peinture, ouais. Hein? On est sous choc pendant le film.
C'est elle-même, finalement. Ben, en fait, ouais. C'est un corps de femme dont on ne voit pas la tête parce que c'est recouvert d'un drap. Mais ce qui sort, c'est non pas un avorton, non pas un enfant, mais elle-même. Qui sort de son propre appareil reproductif. Et puis, c'est assez effectivement choquant. D'ailleurs, quand elle a exposé à Paris, il y a beaucoup de ses toiles qui ont été refusées d'entrée de jeu parce que le sélectionneur trouvait que c'était un peu trop dur.
Pourtant, elle était réputée pour être directe dans son approche en peinture.
Ouais.
Oui.
Et
oui.
Puis, moi, ce que j'ai trouvé aussi... À un moment donné, on dit, il y a 52, je pense, de ces 143 toiles qui sont des autoportraits. Mm. Et on explique ça par le fait que, étant malade et confinée souvent au lit, etc., elle ne trouvait qu'elle-même à peindre. Mais c'est une explication qui me satisfait plus ou moins parce qu'elle aurait pu faire des natures mortes aussi bien. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une...
On parle peut-être d'une artiste qui a réinventé un peu le moi au féminin.
Oui.
Mais c'est même un peu ça, ce qu'elle fait.
Comme tu disais tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a décrit comme, ni plus ni moins, la passionnariat du féminisme.
Ouais.
Et puis, dans le film, il y a une photographe qui est sa nièce, je pense, qui dit à un moment donné, c'était pas une féministe, c'était une femme libérée. Et ce qui se trouve malheureux que le...
C'est parce que le concept n'existait peut-être pas à l'époque.
Mais j'aurais aimé ça que le réalisateur la fasse développer un peu sur ce thème-là, c'est-à-dire où elle voit la différence exactement. Parce que ce n'était pas une femme soumise, et parce qu'elle a eu des tas d'aventures, même avec des femmes, alors que Diego Rivera aussi en avait. Ce qui l'a davantage détruit, c'est la relation qu'il a eue avec sa sœur, sa propre sœur. Mais même à ça, elle est revenue là-dessus, et puis ils se sont épousés une seconde fois. Alors, il y a eu cette relation, c'est un peu comme Richard Burton et Elizabeth Taylor.
Hein? Amour-haine.
Oui, c'est ça. Et dans même, presque dans comme qui a peur de Virginia Woolf, mais en tout cas. Donc, il y a eu cette relation-là entre les deux très forte et à la fois très tendue. Et puis, c'est aussi, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'elle a été membre du Parti communiste. Mm-hmm. Puis Diego Rivera aussi était pas mal dans la mouvance socialiste. Malgré tout, ils ont eu des contrats aux États-Unis. On dirait qu'il n'y a rien qui lui collait à la peau.
Avec les Rockefeller.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle avait une personnalité vraiment forte qui faisait en sorte qu'elle passait partout. Mais ce que je trouve bien triste dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, elle porte comme un collier avec un oiseau, etc. Ça me fait penser au cilice que les moines portaient là, pour se purifier, etc. Sa vie a été marquée par la souffrance et sa vie a été assez courte. Elle a quand même réussi à produire 152 toiles et puis... C'est un symbole du Mexique. Quand on pense à Frida Kahlo, c'est plus que l'artiste, c'est le Mexique, ou c'est en arrière de ça.
Oui, tout à fait. Alors, finalement, écoutez, les deux, vous recommandez tous les deux le film.
Tout à fait,
oui. Je pense que Robert avait certains
bémols. C'est très intéressant. Sauf qu'il y a des scènes, à un moment donné, comme il parlait du stock de films d'archives, etc., puis il y a cette jeune vierge qu'on voit courir un peu partout.
Oui, peut-être qu'il y a eu des longueurs avec les danseuses.
Ça prend beaucoup de temps, finalement, dans le film.
Peut-être que peut-être ces longueurs-là, de mon côté aussi. Qui, et peut-être un peu trop de dramatisme, de drame dans la narration de la part
cette personne-là qui revient narratrice. De temps à autre et qui est absolument sinistre. Là, je ne sais pas si c'était nécessaire. C'est sûr que c'est une vie dramatique, etc. Mais enfin, c'est un film de Giovanni Troilo.
Oui, Troilo, c'est ça, voilà. Et puis, cette personne, la narratrice était bien Asia Argento. Hein? Bon. Alors, nous sommes toutes bien peu de défauts et beaucoup d'avantages à voir ce nouveau film de Frida Kahlo. Donc, encore, mon Dieu, on peut le voir encore quelques jours, quelques temps. Hein, je pense qu'il y a plusieurs. Il y a dimanche, lundi et mardi prochain où on pourra voir le film. Alors, vous pourrez avoir. Au Quartier Latin et aussi à Cavendish. Et vous pourrez voir sur la liste d'événements visuels in situ les moments où le film est projeté. Une recommandation, donc, de in situ.